débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour et bienvenue dans le débat BBC Afrique Africa Radio. L'appel lancé au président Patrice Talon par des opposants recalés par la Sénat puis débouté devant la Cour constitutionnelle sera-t-il entendu ? Cette semaine, seules 3 candidatures ont été retenues pour la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Sauf miracle, le président sortant Patrice Talon affrontera 2 adversaires, Alassane Soumano du FCBE, perçu comme allié du parti, et Corentin Koué, dissident du parti d'opposition Les Démocrates. Les opposants majeurs manquent à l'appel pour diverses raisons. Patrice Talon est-il en passe d'organiser un scrutin taillé à son goût ? L'élection est-elle jouée d'avance ? Débat à suivre dans votre émission. 10 ans après la chute du colonel Muammar Kadhafi, où en est la Libye ? Les autorités de l'Ouest ont organisé diverses célébrations pour marquer cet anniversaire. Un paradoxe selon certains experts qui estiment que la situation, notamment sécuritaire du pays, est bien pire qu'il y a 10 ans. La Libye, qui sombre dans l'insécurité, est également divisée sur le plan politique. Par ailleurs, plusieurs groupes armés s'affrontent sous fond d'influence et d'ingérence des grandes puissances étrangères. La Libye, 10 ans après la chute de Kadhafi, est-elle sur la bonne voie ? Nous en débattons. Enfin, nous parlerons des conclusions du sommet du G5 Sahel tenu lundi et mardi à N'Djamena au Tchad. Satisfait-il des chefs d'État sur le plan sécuritaire ? Selon eux, la sécurité s'est améliorée dans le Sahel face aux groupes armés terroristes depuis le sommet de Pau en France il y a 1 an. De même, la coordination et la coopération entre les armées des pays du Sahel et la force française Barkhane, souvent accusées notamment par la société civile de rouler en électrons libres, se sont renforcées. Autre annonce, l'envoi imminent par le Tchad d'un millier de soldats dans la zone dite des 3 frontières. Et pour en parler cette semaine, notre invité au cœur de l'actualité est Alain Orunla, ministre porte-parole du gouvernement béninois. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, madame.
Il y a 2 journalistes qui vous accompagnent pour cette émission. Ambroise Dagnon, journaliste togolais, directeur du site Courrier d'Afrique. Ambroise, bonjour.
Bonjour Liliane, bonjour au ministre et bonjour à tous les auditeurs de votre émission.
Merci à vous, vous êtes à Lomé, au Togo, et en ligne de N'Djamena, la capitale tchadienne, Nara Antoloum, journaliste à la radio FM Liberté. Bonjour Nara.
Bonjour Liliane, bonjour à vos auditeurs également.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va brièvement faire une note biographique du ministre qui est notre invité principal. Vous êtes né, monsieur le ministre Alain Orunla, le 11 novembre 1967 à Cotonou. Vous êtes avocat. En 87, vous obtenez votre baccalauréat série scientifique, puis votre diplôme d'ES. Suivi d'un DEA en droit des affaires en France. 98, vous ouvrez votre propre cabinet qui est au service d'une clientèle internationale. Puis vous décidez de rentrer au Bénin et intégrer le barreau en juillet 2011. Et le président Patrice Talon vous nomme en 2019 ministre de la Communication et de la Poste, mais aussi porte-parole du gouvernement béninois. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie, vous savez tout.
Encore qu'on a dû résumer, hein, on a dû résumer votre parcours pour le rendre le plus bref possible. Alors, nous allons entamer notre débat. L'opposition béninoise accuse le président Patrice Talon d'avoir verrouillé la présidentielle du 11 avril prochain pour s'assurer un coup KO, entendait une victoire dès le premier tour. Ses opposants s'appuient sur le rejet de la quasi-totalité de leur candidature à l'issue de l'examen de leur dossier, d'abord par la Sénat, la Commission nationale autonome, puis la Cour constitutionnelle. Monsieur le ministre, 3 duos finalement ont été retenus sur les 20 dossiers reçus. Il s'agit donc de Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, Alassane Soumanou, Paul Oumpe et Corentin Goué, Irénée Agossa. Principale raison de ce rejet des candidatures de l'opposition, le problème de parrainage. Mais cela fait bien longtemps que les opposants avaient prévenu et alerté sur cet obstacle.
Oui, madame. D'abord, la version de ceux qui se disent opposants est une version mensongère. Parce que le rejet par la Commission électorale nationale autonome de leur candidature était prévisible. Pourquoi ? Parce que ces différents candidats ont obstinément refusé de se conformer à la loi électorale, faisant une fixation sur le rejet de la révision de la Constitution qui n'a fait qu'améliorer la situation des partis politiques et le code électoral. Quand vous allez à une compétition dont vous refusez de respecter toutes les règles, et j'ai eu l'occasion de rappeler que la réforme de notre système partisan et de notre mode de compétition issu des différentes révisions de la loi que nous avons eue n'est pas d'une application à la carte. Quand on prend tout, quand on prend un pan, on prend tout. Il y a certains candidats qui sont présentés en duo, ce qui veut dire qu'ils ont compris qu'il fallait être en duo, mais qui refusent de joindre à leur dossier le parrainage. Leur candidature est vouée au rejet. Quand on ne paye pas la caution fixée par la loi, qui est de 50 millions de francs CFA, il ne faut pas s'étonner que la candidature soit rejetée. On est allé même jusqu'à se présenter en duo avec la Vierge Marie. C'est vous dire que ces candidatures fantaisistes émanent d'acteurs politiques qui savent qu'ils ne font pas le poids électoral, qui savent qu'ils n'ont pas de programme d'alternative crédible à opposer au bilan élogieux du président Patrice Talon, et ils essayent de perturber.
Donc vous estimez, monsieur le ministre, que ces opposants se sont débrouillés à ne pas être en règle pour éviter une déculottée face à Patrice Talon le 11 avril prochain ?
Ils ne se sont pas débrouillés, ils ont affirmé, ils ont revendiqué. Ils ont dit qu'ils ne voudraient pas se mettre en conformité. Et probablement que la motivation de cette posture qui n'est pas responsable et respectueuse des électeurs résulte probablement de ce qu'ils ont compris, que le bilan du président Patrice Talon en 5 ans d'exercice du pouvoir est très flatteur, plaît et a séduit les Béninois, et ils n'ont rien à proposer en face puisque les seuls qui parlent ne parlent que de restaurer une démocratie qui n'a jamais disparu, qui n'a pas reculé. Donc je pense que c'est une posture minimaliste parce que l'on sait qu'on n'a pas d'argument à opposer.
Vous dites que les opposants se sont arrangés à ne pas être à cette élection, à ne pas y prendre part. Vous avez sans doute connaissance du cas du Parti pour l'engagement et la relève, le PER, qui a signalé que il a pris toutes les initiatives pour avoir les parrainages. Il a contacté certains membres de la majorité à temps, mais il n'a pas obtenu les parrainages nécessaires parce que le président Patrice Talon s'était arrogé quasiment tous les parrainages.
C'est inexact. Je dirais même que c'est faux et mensonger. D'abord, le PER...
Mais ce n'est pas faux quand on dit que le président Talon a 118 parrainages sur 559. Que restait-il pour les autres ?
Il s'est retrouvé avec 118 parrainages au jour de clôture. Et les négociations sur les parrainages ne se font pas au dernier jour. Quand un acteur politique est sérieux, il prépare son dossier au moins une semaine à l'avance, si ce n'est un mois ou deux mois. Les parrainages, les formulaires ont été mis en circulation, mis à disposition 3-4 semaines avant la date de clôture des dossiers. Donc, c'était à ce moment qu'il fallait faire des tractations et les obtenir. Certains acteurs l'ont fait, ils ont obtenu, ils ont déposé leurs dossiers.
Le père dit avoir saisi les responsables de l'UP et du BR, parti allié, le 20 janvier 2021.
J'y viens, il n'y a même pas de souci. La belle preuve en est que certains partis politiques, certains acteurs ont obtenu ce parrainage à temps, l'ont déposé. Pour ce qui est du PER, dont je ne doute pas de la bonne foi des dirigeants, mais quand vous voulez aller obtenir un parrainage, ce n'est pas par correspondance. Ce n'est pas des lettres ou des sommations d'huissiers qui sont en réalité des exercices pour démontrer qu'on a fait une démarche, c'est pas ça. On rencontre les acteurs politiques, on essaie de les convaincre. On n'envoie pas des sommations, par exemple, aux électeurs pour avoir leur suffrage. On fait campagne. Donc, les dirigeants du PER, eux au moins, je sais qu'ils ont...
Ils ont fait la démarche ?
Non, ils n'ont pas fait la bonne démarche. La bonne démarche, c'est pas d'envoyer des courriers aux leaders. La bonne démarche, c'est d'aller discuter avec les parrains qui sont libres.
Donc, si je comprends bien, vous accusez l'opposition de délibérément décidé de ne pas saisir l'opportunité pour avoir les parrainages. Et ceux qui l'ont fait, comme le père, vous estimez que la démarche n'a pas été bonne.
je dis que la démarche du PER n'est pas la plus appropriée, vous en conviendrez avec moi. Vous voulez obtenir, moi je suis député, je suis maire, vous voulez obtenir mon parrainage, vous devez venir me convaincre de ce que votre candidature est crédible. Mais si vous vous contentez d'envoyer une correspondance pour dire voilà, je requiers, j'exige le parrainage, ce n'est pas la bonne démarche. La belle preuve en est que d'autres de l'opposition sont en train aujourd'hui d'être percés à jour, ont démontré qu'ils ont entrepris des démarches véritables pour obtenir ces parrainages. Malheureusement, c'est une démarche mercantile, c'est-à-dire que on est allé négocier les parrainages moyennant finance. C'est pas la bonne démarche non plus. Donc, ça veut dire que les candidats qui étaient décidés ont fait les démarches pour avoir le parrainage et que ceux qui ne l'ont pas obtenu et dont la plupart d'ailleurs disent qu'ils sont contre ce parrainage, qu'ils vont exploser ce parrainage, que ce parrainage est anticonstitutionnel alors que la loi fondamentale a été révisée par le bon organe, eh bien, ils ne sont pas recevables à venir dire du parrainage qu'ils ont décidé d'exploser et ne pas l'obtenir est une manière de confisquer. Alors, le président Patrice Talon a eu 718 parrainages, je vais presque dire par dépit parce que
Combien de parrainages avait-il avant la clôture, avant la date de clôture? Puisque pardon, vous dites qu'il a eu ces 118 parrainages par défaut parce que l'opposition ou les candidats à l'opposition ne les ont pas cherchés, n'en ont pas voulu. Combien de parrainages avait le président Patrice Talon avant d'être obligé, comme vous le dites, d'en accepter davantage parce que l'opposition n'en voulait pas?
Le président Patrice Talon a déposé son dossier le dernier jour, à la date de clôture des dossiers, c'est-à-dire le jeudi. Et s'il a obtenu 118 parrainages, c'est que ce parrainage était disponible pour tout le monde. Et je sais que...
Oui, combien en avait-il avant d'être contraint, comme vous le dites, d'accepter de nouveaux parrainages?
Avant la date de clôture.
Il avait combien de parrainages?
Avant la date de clôture. Allô?
Oui, mais maître Oronla.
Non, j'attire l'attention sur le fait que les parrainages ont été conférés au président de la République le dernier jour, le jour de clôture. Avant cela, il avait réellement, effectivement, aucun parrainage.
D'accord. Donc, mais vous, quels que soient les arguments que vous donnez, maître Oronla, est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment aujourd'hui, est-ce que vous êtes au moins d'accord, vous admettez que cette septième élection du Bénin, depuis l'avènement du processus de démocratisation en 90, se tient quand même ou se tiendra quand même dans des conditions inédites?
Madame, ce n'est pas une argumentation, c'est la restitution des faits. C'est les faits qu'il ne faut pas dénaturer. Les élections se déroulent dans des conditions inédites, oui évidemment, parce qu'une réforme est passée par là. Nous avons décidé de ne plus faire de notre élection présidentielle une foire à la connerie, où n'importe quel rigolo, on peut le dire, n'importe quel farceur, n'importe quel saltimbanque, se croit, au nom de la démocratie, autorisé à déposer des candidatures fantaisistes. En dépit de la réforme dont l'objectif a été de renforcer les systèmes, de renforcer les partis et de crédibiliser la candidature, nous avons eu des candidats qui sont venus en disant qu'ils viennent en duo avec la Vierge Marie. D'autres qui sont venus en disant qu'ils viennent exposer le parrainage. Écoutez, il y avait suffisamment de parrainage, il y a eu 159 parrains potentiels qui ont ouvert le jeu et nos amis qui n'ont pas obtenu ce parrainage, soit parce qu'ils n'ont pas adopté la bonne démarche, soit parce qu'ils étaient contre, soit parce qu'ils ont voulu monnayer, eh bien, ils ne sont pas légitimes à venir dire qu'il n'y en a pas.
Merci, maître Oronla. Ambroise Dagnon, sur ce débat relatif au rejet de la candidature de la quasi-totalité des membres de l'opposition à la présidentielle au Bénin.
Alors, j'ai écouté monsieur le ministre avec beaucoup d'attention. Vous savez, ce qui se passe au Bénin, nous qui sommes les voisins de l'Ouest, nous le suivons de très près parce que la démocratie béninoise a toujours été un modèle depuis l'avènement de la démocratie au début des années 90. Mais je me rends compte que depuis l'année dernière, enfin depuis 2019, la démocratie béninoise a fait un infarctus. Parce que quand j'entends le ministre dire par exemple que la réforme électorale devait faire en sorte que n'importe quelle saltimbanque, je reprends son propre terme, ne puisse pas...
Une foire à la connerie.
une fois à la connerie, alors je suis, ça m'amuse un peu, parce que je crois quand même que Patrice Talon, hein, le président béninois pour qui j'ai beaucoup de respect, qui était candidat en 2016, n'est pas un pur produit du système politique. Et pourtant, il a quand même compéti pour être élu président du Bénin aujourd'hui. Donc, si la loi devait être taillée sur mesure, d'accord, par les prédécesseurs de Patrice Talon, je ne pense pas qu'aujourd'hui Patrice Talon aurait pu s'asseoir dans le fauteuil présidentiel au Bénin. Soit. Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais quand même que nous puissions replacer les choses dans leur contexte. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin n'est que la conséquence directe de ce qui s'est passé en réalité en 2019, lorsque le gouvernement de Patrice Talon a organisé des élections législatives avec une loi un peu scélérate, dans la mesure où, figurez-vous que seuls deux partis affiliés au parti au pouvoir se sont présentés à cette élection législative-là. Et ce sont c'est la configuration politique née donc de cette élection législative.
Avec une assemblée monocolore.
Avec une assemblée monocolore qui
a voté la réforme électorale.
La réforme électorale et qui distribue aujourd'hui les cartes en matière de parrainage. Donc, je suis surpris aujourd'hui que le ministre dise que cette réforme-là avait pour objectif de faire en sorte que n'importe qui ne participe pas aux élections. Alors, il faut dire simplement que Patrice Talon, qui n'était pas un pur du système politique quand il est arrivé, il a quand même commencé à faire les choses à sa manière pour éviter la concurrence. D'abord, il a chassé, mis en exil, ou à contrer, si vous voulez, en exil.
Sébastien Ajavon.
Sébastien Ajavon, le faiseur du roi.
Il avait soutenu en 2016, et avec lequel il s'est ensuite brouillé.
Et puis après, il a interdit les manifestations. On a vu comment l'initiative de l'ancien président, Yahi Boni, avait été encerclé pendant des mois. On a vu tout cela avec l'intention de Marcel de Souza, paix à son âme. On a vu tout ça. Donc aujourd'hui, le Bénin se présente comme un pays qui, malheureusement, est en train de glisser, on va dire, des rails de la démocratie sur lesquels elle s'est mise depuis 90. Et donc, pour terminer, je dirais très rapidement que, oui, aujourd'hui, c'est vrai que de façon légale et juridique, on n'a pas beaucoup de choses à reprocher à Patrice Talon. Mais pour moi, cela pose un problème de démocratie, parce que l'élégance démocratique voudrait quand même qu'on organise des élections de compétition auxquelles participent toutes les tendances favorables au pouvoir comme opposées au pouvoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit simplement Patrice Talon candidat avec deux candidats ou deux dieux de candidats qui en réalité se présentent comme des béquilles du parti au pouvoir.
Merci.
Et on rejette les candidatures sérieuses de l'opposition, notamment celle de Riquet Madougou, de Joël Frédéric Aïva, même si encore une fois, sur le cas de Riquet Madougou, j'ai des choses à dire.
Merci Ambroise. On va laisser une minute à Nara Antoloum pour un commentaire sur cette actualité politique au Bénin.
Oui, merci Liliane. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le ministre togolais, porte-parole du gouvernement.
Béninois, pour être précis.
Béninois, autant pour moi. Oui. Mais ce qui se passe en ce moment au Bénin traduit un net recul de la démocratie dans ce pays considéré comme modèle la démocratie vers les années 1990. Le Bénin se dirige donc vers une élection sans adversaire d'envergure pour le président Patrice Talon. Donc, c'est vraiment regrettable. Hein. Ce serait la troisième fois après les municipales et les législatives de 2019. Aujourd'hui, avec le système de parrainage, et on se rappelle également avec les récentes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, franchement, nous sommes sidérés par ce qui se passe aujourd'hui. C'est un véritable recul de la démocratie dans ce pays considéré par les pays africains de la sphère francophone. Aujourd'hui, le Bénin n'est plus le modèle de la démocratie comme l'ont chanté hein, aux heures des conférences nationales souveraines. Donc, c'est vraiment décevant, Julien.
Merci beaucoup, Nara Antoloum, pour ces analyses. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour poursuivre encore quelques instants notre débat sur la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin qui s'organise sans l'essentiel des membres de l'opposition.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Notre grand témoin cette semaine, Maître Alain Orunla, avocat, ministre béninois et porte-parole du gouvernement. Nara Antoloum, journaliste tchadien à Radio FM Liberté, est en ligne de N'Djamena avec nous cette semaine. De même que Ambroise Dagnon, journaliste togolais et directeur du site Courrier d'Afrique, il est à Lomé, au Togo. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez brièvement répondre à ce que viennent de déclarer nos confrères? La démocratie a fait un infarctus, ça c'est ce que vient de dire Ambroise. Et pour notre confrère du Tchad, Nara Antoloum, la démocratie béninoise est en recul. Comment pouvez-vous convaincre aujourd'hui l'opinion et même les Béninois de ce que Patrice Talon est réellement disposé à organiser des élections présidentielles pluralistes et inclusives le 11 avril prochain et que le scrutin n'est pas joué d'avance?
Merci. Les Béninois n'ont aucune difficulté de compréhension puisque dans leur immense majorité, ils adhèrent aux différentes réformes qui ont été entreprises pour la prospérité de notre pays. Il n'y a qu'une poignée d'activistes qui sont dans une rhétorique qui est reprise par vos collègues et une rhétorique partielle et parcellaire. Si le Bénin a pu être un exemple de démocratisation pionnier en la matière, je crois que il serait honnête d'admettre que la consolidation de la démocratie par le gouvernement du président Patrice Talon est également un acte novateur ou innovateur dont vous saluerez les mérites dans quelques mois, quelques années. Je récuse l'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'opposant. Le président de la République, candidat, est le seul candidat de la mouvance qui ne regroupe que 5 formations politiques, mais les formations politiques les plus reconnus, les plus enracinés. L'opposition dont vous parlez, puisque certains commentateurs se donnent la liberté de dire qui est vrai opposant et qui est faux opposant, est représentée avec ces 10 formations politiques, pour ceux qui ont voulu y aller, par 2 duos différents. Moi, je n'ai rien à voir, étant du BR, avec FCBE. Donc, la compétition est ouverte et il suffit de 2 candidats pour que la compétition soit ouverte. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis.
L'opposition dit 2 candidats choisis par le président Patrice Talon.
Oui, mais ça, c'est ceux qui n'ont pas préparé leur devoir qui disent ça pour dénigrer des acteurs politiques qui, eux, se sont conformés et participent à la compétition, puisqu'il y aura au moins le choix entre ces 3. Donc, si tant est que le président Patrice Talon est contesté, les Béninois feront la part des choses et voteront. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un en
oui,
face.
Oui, mais quelle est la valeur d'une élection qui se tient dans ces conditions, monsieur le ministre? Les opposants sont convaincus que Patrice Talon, ça c'est un des opposants qui le dit, notamment Joël Aïvo, que le président Talon n'a pas voulu prendre de risques et il a choisi de sélectionner ses adversaires parmi ses alliés et refuser la compétition aux candidats capables de le battre dans les urnes.
Joël Aïvan détient-il la vérité universelle? Pourquoi vous
nous restituons juste sa position?
Oui, mais ce n'est que sa position, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de la majorité des acteurs politiques. Donc il faut arrêter de focaliser sur des petites phrases assassines qui reposent sur du vide, parce que vous n'êtes pas capable de me dire l'alternative que Joël Aïvo, qui a eu loisir d'user et d'abuser de la liberté d'aller et de venir dans notre pays, de la liberté d'expression, y compris d'insulter le président, et qu'il est toujours là, mais qui refuse de se conformer à la Constitution, lui, le Constitutionnel, vous ne pouvez pas vous fonder uniquement sur de tels propos, alors même qu'il est décrit au sein de l'opposition. S'il y avait un problème de démocratie au Bénin, il aurait été facile pour toutes les forces de l'opposition de désigner un candidat unique.
Juste une précision, monsieur le ministre, très rapidement. Quand vous déclarez que la majorité des Béninois est d'accord avec cette réforme électorale aujourd'hui qui, de fait, exclut l'opposition à ce scrutin, est-ce qu'il y a eu un référendum pour connaître Béninois sont en phase avec vous?
L'exclusion dont vous parlez.
Sur quelle base faites-vous cette déclaration?
L'exclusion dont vous parlez est une incantation.
Oui, mais le référendum, c'est sur le référendum. Vous avez dit que les Béninois sont d'accord avec vous. Sur quels arguments vous fondez-vous pour faire ces déclarations?
Je fonde les arguments sur le fait qu'on est une classe politique. Si vous avez 83 députés, parce que ce sont eux qui ont voté les réformes, qui sont issus non pas de 2 partis, mais d'un regroupement de 280 partis, l'essentiel de la classe politique s'est retrouvé dans les deux blocs. Les contradictions internes sont là. L'essentiel des Béninois se retrouve au sein de ces formations. Donc si sur les 203 faux partis d'avant la réforme, il y en a deux ou trois qui ont refusé d'adhérer à la réforme, ils ne sauraient être considérés comme la majorité. Ensuite,
merci.
Vous parlez d'assemblée monocolore, je vous signale quand même que les forces qui ne se retrouvent pas aujourd'hui au sein du Parlement sont des forces qui ont appelé à boycotter l'élection. Ils y sont allés même jusqu'à menacer les électeurs en 2018 ou 2019 de se rendre sur les lieux du scrutin. Après cela, c'est facile de venir dire que c'est une élection exclusive alors que c'est eux qui n'ont pas pris
merci.
Leur responsabilité.
Monsieur le ministre, troisième élection sans véritable parti d'opposition, les municipales puis les législatives, est-ce qu'on ne pourrait, il n'y a pas de risque d'instabilité après ce scrutin?
Mais il n'y a aucune instabilité, et vous le verrez d'ailleurs, vous me demandez la preuve de ce que j'avance. C'est ce que nous constatons sur le terrain, et c'est ce qui sera certainement confirmé lors du scrutin du 11 avril, où la légitimité du président de la République sera mesurée. S'il est à ce point décrié, il y a deux autres duos, même si vos amis de l'opposition considèrent que eux ne sont pas les vrais opposants, eh bien le peuple béninois choisira. Mais je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait que les réformes aujourd'hui critiquées par une minorité d'activistes, ont été voulues de longue date par l'ensemble de la classe politique, y compris mouvance opposition d'hier, ça a été voulu par l'ensemble de la classe politique. Ces réformes ont été voulues et inspirées par Joël Aïvon, qui a fait partie des commissions de révision de la Constitution et qui a été l'un des rapporteurs ayant proposé le parrainage. Vous savez, ce n'est pas des réformes à géométrie variable. On croit en quelque chose, on peut changer d'avis le lendemain. Mmh. Mais accuser les gens d'avoir mis en œuvre, peut-être pas à votre goût, parce que vous êtes aujourd'hui fâché, ce n'est pas honnête de venir dire que ces différentes réformes n'ont pas été voulues par la classe politique.
D'accord.
C'est vrai,
oui.
Ça pose des problèmes à ceux qui faisaient de la politique leur fonds de commerce.
J'ai entendu
dire qu'on exclut. On n'a exclu personne, il y a des acteurs politiques qui se sont retrouvés impliqués dans des crimes économiques. Le fait d'être acteur politique n'est pas une immunité. C'est pas parce qu'on est acteur politique qu'on ne peut pas rendre compte de sa gestion ou des infractions qu'on a pu vous reprocher.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, très brièvement, à vous entendre, on a l'impression que le débat sur la participation non de l'opposition est clos et que le président Talon ne donnera pas une suite favorable à la demande de l'opposition d'accorder une dérogation pour ce qui est des parrainages.
Ce n'est pas une demande de l'opposition, c'est une demande de confort de Joël Aïvor et de ses rares amis, parce que le débat n'est plus là. Et je considère d'ailleurs que cette proposition est une provocation, parce que vous n'êtes pas au pouvoir. L'Assemblée légifère, vous estimez, alors que vous n'avez pas de position officielle, que cette législation n'est pas bonne, et de bout en bout, vous dites que cette législation est à jeter.
Merci.
Non, madame, il faut bien lire les choses.
Merci beaucoup, monsieur le ministre Ourunla. On marque une pause. Prochain sujet.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Vous êtes sur Africa Radio et BBC Afrique. Vous écoutez votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité africaine de la semaine. Et notre invité au cœur de l'actualité est Maître Alain Ourunla, avocat, ministre, porte-parole du gouvernement béninois. Il est accompagné par deux journalistes, Nara Antoloum, journaliste tchadien à Radio FM Liberté N'Djamena, et Ambroise Dagnon, journaliste directeur du site Courrier d'Afrique à Lomé, au Togo. Le débat BBC Afrique, Africa Radio est aussi à écouter ou réécouter sur africaradio.com et bbcafrique.com, et surtout réagissez, partagez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission facebook.com/débat BBC Africa Radio. Deuxième sujet, le Tchad. Pas de réduction d'effectifs militaires français militaire de la force Barkhane de 5100 hommes au Sahel. C'est ce qu'a annoncé le président français Emmanuel Macron à l'issue du sommet du G5 Sahel tenu cette semaine donc à N'Djamena en présence des chefs d'État des pays concernés et bien d'autres aussi. C'est le cas du Ghanéen Nana Akufo-Addo, présidente en exercice de la CEDEAO et du Sénégalais Macky Sall, ce dernier qui a d'ailleurs promis une aide de plus d'un milliard de francs CFA pour soutenir la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Je commence avec notre confrère Nara qui est à N'Djamena. Avant de parler peut-être de certaines décisions prises à l'issue de ce sommet, Nara, je voudrais que vous commentiez peut-être déjà sur la forme. On a l'impression que les autres chefs d'État ne sont pas très bavards sur les conclusions de ce sommet et que le leadership de la communication a peut-être été laissé au président français Emmanuel Macron qui a participé par visioconférence. Est-ce que c'est votre sentiment?
Oui, c'est tout à fait ce que je pense, parce que le président français, c'est lui en fait qui a ravi la vedette lors du sommet, du 7e sommet du G5 Sahel qui s'est tenu du 15 au 16 février 2021 en N'Djamena, où les chefs d'État, les dirigeants du G5 Sahel, notamment du Burkina Faso, du Mali, du Niger et bien évidemment du Tchad, ont pris activement part avec d'autres présidents, notamment le président ghanéen et le président de la Commission de l'Union africaine. Et ce sommet de N'Djamena a fait en quelque sorte le bilan de ce qui s'est passé et a permis donc au chef de l'État tchadien, le président Idriss Déby, de prendre les rênes du G5 Sahel donc depuis le lundi dernier.
Il a succédé au Mauritanien Al Ghazouani, mais on peut parler brièvement de conclusion de ce sommet. Le président tchadien a annoncé 1200 hommes pour la force pour soutenir la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel. Comment, vous, au Tchad, vous avez perçu cette décision?
Bien, en fait, c'est une décision qui relève donc de la souveraineté du chef de l'État tchadien, puisque vous vous rappelez, en décembre 2015, lors du sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu à Niamey, le Tchad a décidé de l'envoi d'un bataillon au faisceau centre donc, de la zone dite les trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il l'a réitéré lors donc du sommet de Pau en France le 13 janvier 2020. Et le second bataillon était déjà à Diffa au Niger. Donc rappelez-vous, et lorsque la secte terroriste Boko Haram avait attaqué des positions de l'armée tchadienne le 23 mars 2020 sur l'île de Boko Boama, tuant des soldats tchadiens, le déploiement a été ajourné et les soldats ont rebroussé chemin pour participer à la colère de Boma. Et puis voilà, en marge donc de ce sommet qui vient de s'achever le 16 février dernier, le chef de l'État a annoncé à ses pairs la région.
Et comment le Tchad, les Tchadiens ont-ils accueilli cette décision, Nara, très brièvement?
Bien, mais les cadets ont été mis devant le fait accompli, puisque au moment où les rideaux tombaient donc sur ce 7e sommet, les 1200 soldats tchadiens étaient déjà en route. Et c'est après que le président a fait une déclaration, a saisi l'Assemblée nationale par une déclaration. Donc, les cadets ont assisté impuissants donc à ce déploiement des forces des troupes tchadiennes au Mali.
Ambroise Dagnon, vous pensez que ça va probablement faire la différence, ça va aider à consolider les progrès dont se sont félicités ces chefs d'État dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, notamment dans cette zone de trois frontières?
Alors Liliane, vous avez posé une question d'abord à mon confrère Nara sur le leadership de la communication qui a été du moins à dire ravi par Emmanuel Macron, parce que vous savez, l'opération Serval d'abord, et puis Barkhane à partir de 2013, est aujourd'hui, enfin, n'a plus d'écho favorable, même en France, ni au Sahel. Donc Emmanuel Macron est en train de relégitimer en quelque sorte cette opération Barkhane, parce que, vous savez, en France, on est à un peu plus d'un an des élections présidentielles.
Donc vous pensez qu'il communiquait à la fois pour l'opinion française et l'opinion sahélienne des pays du Sahel, où il y a eu des manifestations, notamment à Bamako, pour demander le retrait de la force française?
C'est exactement cela. Emmanuel Macron est en train de communiquer.
Allô, Ambroise ?
Oui.
Oui, on vous avait perdu. Allez-y, Ambroise.
Alors, je disais que le président français Emmanuel Macron est en train d'abord de communiquer avec son électorat, lui qui est en quelque sorte en baisse de cote de popularité en France à plus d'un an des élections présidentielles. Ensuite, pour les populations du Sahel qui considèrent la présence des forces françaises comme une armée d'occupation. Donc aujourd'hui, très clairement, Emmanuel Macron a communiqué. C'est pour cela qu'il a pris le devant de la communication, ne laissant aucune chance aux présidents africains, du moins de ces pays du G5 Sahel, à pouvoir communiquer.
On peut aussi leur reprocher d'avoir laissé faire.
Oui, c'est possible, on peut leur reprocher d'avoir laissé faire. Et ça, c'est toujours, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que c'est toujours le maître et ses disciples, donc la France. Et puis bon, voilà, les petits disciples africains qui suivent le pas du colon. Et puis, par ailleurs, vous avez posé une autre question à mon confrère sur l'adhésion même, ou sinon la réaction des Tchadiens par rapport à tout ce qui a été dit comme résolution ou conclusion du dernier sommet de N'Djamena. Parce que effectivement, c'est une question très intéressante où, vous savez, les nouvelles recrues de ces groupes djihadistes aujourd'hui n'ont pas nécessairement raison ou motivation, l'idéologie ils n'ont pas forcément des motivations idéologiques ou religieuses. Il y a aujourd'hui comme ferment de ces nouvelles recrues-là dans ces groupes terroristes la lutte contre le sentiment d'injustice qui les anime, parce qu'ils estiment que voilà, à la tête de leurs États, il n'y a que des dictateurs, des gens qui rendent compte aux puissances coloniales ou aux ex-puissances coloniales qui les ont placés à la tête de ces pays-là, que les richesses nationales ne sont pas redistribuées équitablement. Donc il y a un tas de choses aujourd'hui qui animent ces gens-là. Donc l'adhésion même des populations d'Afrique, notamment du Tchad et des pays concernés, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Mali, leur adhésion à cela est très très importante. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et même le fait pour la France d'avoir choisi N'Djamena pour organiser ce sommet du G5 Sahel, pour moi, ça pose un problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Idriss Déby Itno est candidat à un sixième mandat contesté, contesté.
Bon, on pourrait aussi vous rétorquer que c'est la réelle politique. Il fallait peut-être séduire au maximum le président tchadien pour qu'il accepte enfin le déploiement de ces troupes attendues depuis 2015. Nara l'expliquait. Monsieur le ministre Alain Orulla, sur ce déploiement des forces tchadiennes, cette communication du président Macron sur les conclusions du sommet, un commentaire ?
Oui, bien sûr. Le terrorisme est une affaire trop grave pour qu'on résume la lutte contre le terrorisme à des querelles de communication. Par ailleurs, je pense que toutes les parties prenantes ont compris que ce terrorisme ne peut plus être localisé. C'est-à-dire que c'est une guerre planétaire donc qui appelle une réplique planétaire. Et d'ailleurs, nous saluons les efforts du gouvernement tchadien qui est impliqué et qui a démontré, dont les troupes ont démontré leur efficacité, par exemple, dans le recul de Boko Haram qui commençait à s'étendre un peu partout dans la sous-région. Sur la question, la position de mon gouvernement, qui ne fait pas que des réformes politiques, mais également des réformes institutionnelles de très haut niveau, le président Patrice Talon, que nous soutenons, considère que les peuples africains, les gouvernements africains, les gouvernants africains doivent être en mesure de prendre leur destin en main et d'être à l'initiative et au financement des différentes opérations.
C'est ce que le gouvernement sénégalais a fait en offrant plus d'un milliard. Est-ce que on pourrait attendre cette même implication financière de la part du gouvernement béninois à cette force, ou alors le soutien en homme comme l'a fait le Tchad?
Exactement. Le président sénégalais a répondu en écho à cette proposition saluée du président Patrice Talon. Le Sénégal, pour l'instant, a un peu plus de moyens que le Bénin qui se reconstruit, mais nous sommes prêts à cette enveloppe financière, à notre quotité et à nos troupes qui sont engagées sur plusieurs fronts, sur plusieurs théâtres. Donc, c'est cette
conscience. Donc, on peut s'attendre à une contribution du gouvernement béninois à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ?
Mais non seulement à la lutte contre le Sahel, le terrorisme dans le Sahel, parce que le Sahel est à nos portes, mais également dans tous les enjeux, dans tous les défis qui sont lancés au continent africain, que soient les défis liés aux pandémies, aux maladies, etc., que cette gangrène du terrorisme.
Merci.
Qui doit être approchée de manière holistique et non pas seulement militaire. Parce
Merci
que les
beaucoup.
Problèmes sont profonds et nous y faisons face jusqu'à la racine.
Merci beaucoup. Nara, pour terminer en quelques mots, vraiment, sur ce renforcement de la coordination et de la coopération entre Force Barkhane et Armée du Sahel, est-ce que c'est votre sentiment également qu'il y a eu des progrès qui ont été faits? Je pose la question parce que certains experts estiment que ce bilan et ce satisfait-ci également sur ce point est discutable.
Oui, c'est un bilan véritablement mitigé, discutable à tout point de vue, hein, puisque parmi les résultats obtenus par la force conjointe, c'est vrai, le président sortant donc du G5 Sahel s'est félicité donc en disant que c'est un bilan qui s'est révélé positif avec un rapport de force favorable qui s'est nettement imposé au groupe terroriste. Mais en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que beaucoup reste encore à faire, raison pour laquelle ils ont insisté donc lors de ce sommet sur la mutualisation des forces pour pouvoir faire face à ces djihadistes, ces terroristes-là, qui écument donc la bande sahélienne. Et le président, le nouveau président en exercice, le président Idriss Déby Itno, a fait savoir qu'aucun État du Sahel ou du monde ne peut vaincre le terrorisme. C'est pourquoi il a toujours convaincu, c'est faire que la mobilisation des efforts reste la seule option pour combattre le terrorisme dans la bande sahélienne.
Merci beaucoup. Et mobilisation sous-régionale, et on l'a vu déjà donc avec cette réaction du Sénégal et du Tchad. Nous allons passer, messieurs, sans transition au dernier sujet. Peut-on espérer de meilleures perspectives pour la Libye, qui a célébré cette semaine les 10 ans de la chute de son défunt leader, le colonel Muammar Kadhafi? Même si le pays est en ruine, la classe politique divisée, l'insécurité ambiante et l'influence de grandes puissances étrangères omniprésentes, eh bien, les autorités dites légitimes ont commémoré par des festivités diverses les 10 ans de la chute de Kadhafi. Je commence avec vous, monsieur le ministre. Les autorités libyennes devraient-elles, selon vous, célébrer cette chute de leur ancien leader alors que le pays vit dans les conditions que je viens de décrire sommairement?
Vous savez, c'est difficile pour le membre du gouvernement de Duma que je suis de me prononcer avec sincérité sur la question. Ce que je constate, c'est que la chute du régime de Kadhafi est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est que le peuple libyen et les dirigeants libyens sont otages de leur pétrole. Et c'est malheureux pour ce peuple qui peut connaître...
Otages des grandes puissances.
Oui, mais surtout de son pétrole, parce que c'est ça la part. Donc, moi, je pense pas qu'il faille compter sur ces puissances, mais qu'il faudrait un sursaut de conscience pour que les dirigeants libyens, qui sont pas moins intelligents que les autres dirigeants, comprennent quels sont véritablement les enjeux et offrent notre destin à ce grand peuple, le destin qu'il mérite, c'est-à-dire celui d'une nation prospère et solidaire.
Merci, Monsieur le ministre Orunla. Ambroise Dagnon, sur cette célébration, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu malgré tout quelques petites avancées, peut-être sur le plan démocratique, même si pour ce qui est de la sécurité et sur le plan économique aussi, la Libye a connu un très grand recul?
Oui, Liliane, aujourd'hui en Libye, arriver à avoir l'électricité quelques heures en une journée, c'est un luxe. Mettre les enfants à l'école, avoir accès à l'eau, c'est un luxe. Ce qui, au temps du guide libyen Muammar al-Kadhafi, n'était que naturel, ordinaire, même si les puissances étrangères avaient convenu d'appeler Kadhafi le dictateur, le guide libyen le dictateur. Il faut quand même reconnaître que même s'il n'y avait pas d'espace de liberté, les Libyens, ils mangeaient à leur faim, ils ne souffraient pas, les Libyens. Mais aujourd'hui, 10 ans après le début de ce qu'on peut appeler la révolution libyenne, tout est complètement, on va dire, la Libye s'est transformée en une véritable poudrière. Les Libyens sont blasés. Moi, je lisais un rapport.
Allez-y, pardon.
Je lisais dernièrement un rapport de l'Organisation mondiale des immigrations, des migrations plutôt, qui parle de près de 800 000 Libyens qui sont prêts aujourd'hui à traverser l'Atlantique pour se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Europe. Vous imaginez, vous voyez déjà à quel point aujourd'hui c'est compliqué pour les Libyens.
Mais s'ils célèbrent, comme on l'a vu sous la conduite des autorités, cette chute de Kadhafi, c'est qu'il y a probablement des raisons de faire la fête.
Je pense qu'aujourd'hui, la Libye est divisée, c'est un pays clivé, deux armées, deux gouvernements, deux parlements. Donc tout ça là, je peux dire, ce n'est que du folklore, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, on parle de plus de 3000 milices qui sont actives aujourd'hui en Libye. On parle des élections générales qui devraient s'organiser dans un an. Alors je me demande si...
D'ici la fin de cette année
À la fin de cette année, je me dis si techniquement cela pourrait avoir lieu, parce que d'abord, pour organiser des élections, il faut une constitution, il faut un gouvernement, il faut pouvoir démanteler ces milices-là. Alors techniquement, est-ce que 12 mois pourraient suffire pour faire tout cela et organiser des élections? Moi, je ne pense pas. Donc aujourd'hui, on a beau fêter la fois dernière les 10 ans de la révolution libyenne, mais je pense plutôt qu'aujourd'hui, les Libyens n'ont pas la tête à la fête, mais ils ont plutôt la tête à comment faire pour que... Aujourd'hui, oui, c'est vrai, on peut...
Ils sont plus préoccupés par des questions de survie.
De survie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'une certaine accalmie, parce que le nombre de morts a diminué considérablement comparé à quelques périodes des 10 dernières années.
Peut-être grâce au cessez-le-feu qui a été signé, justement, entre les deux camps rivaux.
Exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a de faire, enfin, les Libyens, je crois quand même que si on se met aujourd'hui dans la peau des Libyens, on regrettera forcément, on sera nostalgique de l'ère Kadhafi, qui malheureusement ne pourra plus revenir. Et c'est également l'une des conséquences de ce qu'on voit dans le Sahel. Tout à l'heure, on a parlé du terrorisme avec le G5 Sahel, avec les armes qui se sont volatilisées, cette bande sud de la Libye, frontalière avec les pays du Sahel, qui s'est transformée en une véritable passoire où transitent les armes et des trafics de tout genre. Vous imaginez un peu, donc en cela... Pas la communauté internationale, mais les États, les superpuissances internationales ont chacune une part de responsabilité
dans
ce qui se passe en Libye. Et on se demande quand est-ce que ça va être rétabli.
Merci beaucoup. Nara Antoloum, sur cette chute de Kadhafi, dont les 10 ont été célébrés cette semaine, est-ce que vous vous dites quand même qu'il y a de l'espoir pour que d'ici un an, ou à court terme ou à moyen terme tout au moins, on fasse un bilan beaucoup moins sombre de la chute de Kadhafi?
Difficile donc d'espérer, parce que 10 ans donc après l'exécution sommaire de Kadhafi, la Libye peine aujourd'hui à retrouver sa stabilité et sa prospérité économique. Liliane, pays aux riches ressources pétrolières et à la stabilité politique indéniable sous Kadhafi, bien sûr. Aujourd'hui,
le ministre parlait de la Libye otage de son pétrole.
Mais bien sûr. Aujourd'hui, la Libye est devenue un repère d'immoralité, de barbarie. Nous sommes alors loin, très très loin de cette démocratie tendue au peuple libyen, à la liberté qui a servi de prétexte au débarquement de Mouammar Gaddafi et au rêve de paradis sur terre. Donc, tant caressé. Donc, la lutte pour la démocratie affichée par les forces occidentales n'a été qu'un éclat de fumée. Aujourd'hui, en fait... Dans cette confusion apocalyptique émergent donc deux autorités belligérantes qui se font la guerre. Donc le peuple libyen, à mon avis, regrette maintenant le guide libyen qui, en son temps, a fourni tout à son peuple.
Merci beaucoup, Nara. En quelques mots, Monsieur le Ministre, je vous donne le mot de conclusion sur la Libye. Il y a un gouvernement intérimaire qui a été mis en place et son Premier ministre a choisi l'Égypte comme destination pour sa première visite à l'étranger. Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport aux craintes d'ingérence des grandes puissances dont vous voulez de parler?
Mais c'est déjà un signe rassurant. La coopération sud-sud, et l'Égypte n'est pas un petit pays. L'Égypte est tenue par un Raïs qui sait être ferme. J'espère que ce dirigeant recevra les bonnes leçons pour naviguer.
L'Égypte aussi accusée de ne pas être neutre dans la crise libyenne.
Mais écoutez, personne n'est neutre. C'est même une faute que d'être neutre. Mais je préfère
la coopération sur cet axe, parce que l'Égypte aussi a connu quelques heures chaudes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte aux affaires du canal de Suez, etc. C'est les mêmes problématiques. Et ne perdons pas de vue que Muammar Kadhafi, enfin le défunt Muammar Kadhafi, a fait la Libye en s'opposant aux forces d'exploitation du pétrole, et que celles-ci ont eu raison de lui. Donc il faudra réinventer cette Libye qui garde ses ressources et qui en fait quelque chose d'utile pour les citoyens, au lieu que ce soit, je dirais, la malédiction.
Merci beaucoup. Merci. On va à présent écouter les réactions de nos auditeurs laissées sur la page Facebook, préparée et présentée par Didier Ladislas Lando. Tendons l'oreille, monsieur le ministre.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Présidentielle au Bénin, Jean Zoumon estime qu'on s'achemine une fois de plus vers une élection exclusive. Pour lui, il aurait été mieux que les candidats soient parrainés par les électeurs inscrits sur la liste électorale. Cela aurait permis d'éviter les crises que nous observons présentement. Pour Oka Alban Tchala, la prochaine présidentielle n'est nullement exclusive car les deux duos de l'opposition retenus par la Sénat sont bel et bien en lice contre un seul duo de la mouvance. Pour lui, ce qui pose problème, c'est plutôt l'union au sein de l'opposition qui devrait se regrouper derrière les deux duos qui la représentent afin de battre le président Patrice Talon dans les urnes. 10 ans de la révolution libyenne, Silus Nabegué pense que la révolution libyenne est la cause principale des attentats terroristes dans le Sahel. De son côté, Yacouba Badolo affirme qu'après 10 ans, les Libyens n'ont que des regrets et que le rêve de démocratie et de liberté s'est transformé en calvaire. Notre internaute de Saint-Pierre Pedro en Côte d'Ivoire dénonce aussi ce qu'il appelle le silence coupable de l'Union africaine. Merci à Mephis Kitty pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/debatbbcafrique-africaradio et sur Twitter à @debatbbcafrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando, et merci pour toutes ces réactions. Monsieur le ministre, un mot de conclusion. On a entendu un auditeur parler tout à l'heure de la possibilité ou l'inviter un peu les opposants recalés à s'aligner derrière les deux qui ont pu participer à cette élection. C'est un scénario que vous envisagez et redoutez peut-être ?
Mais c'est un scénario que nous encourageons parce que nous sommes malheureux de cette défection. Des opposants qui sont les propres artisans de leur débandade. Nous avons envie d'un débat contradictoire que nous allons retrouver que dans la mobilisation de l'électorat et la légitimité qui nous sera conférée. Ben, je salue la pertinence de l'opinion des auditeurs qui sont à l'image des peuples, c'est-à-dire lucides, perspicaces et pertinents. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous féliciter d'être sans complaisance, mais dans l'équilibre, de faire ce travail d'information, de sensibilisation. Vraiment, merci. Et bravo à vous de faire ce travail constamment et assidu et de nous donner la parole.
Merci, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement béninois. Vous étiez notre grand témoin cette semaine. Merci donc, maître Alain Orunla, avocat. Merci à vous, Nara Antoloum, journaliste à la radio FM Liberté à N'Djamena, au Tchad. Merci à Ambroise Dagnon, journaliste togolais, directeur du site Courrier d'Afrique. Vous étiez en ligne de Lomé, au Togo. Réalisation à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Retrouvez cette émission très bientôt sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com, et venez ensuite partager avec nous sur la page Facebook vos avis et commentaires. Je vous donne l'adresse de notre page Facebook, facebook.com/debatbbcafricaradio. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end et à la semaine prochaine pour une autre édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir.